cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 5 novembre 1986.
Sûrement des problèmes très importants et très difficiles. semaine. Mais s'il risque d'étouffer l'objectivité d'intelligence, en raison même de cette profilération si grande de la vie d'intelligence, en raison même de cette intensité de la vie d'intelligence, alors si on ne voit plus que ces mauvais rêves, on ne voit plus ce qui détermine l'intelligence, alors ça étouffe. Ça progressivement, parce que c'est important pour nous. Nous devons donc accepter que toute démarche de l'intelligence et surtout la philosophie qui atteint la sagesse doit se critiquer. La sagesse doit se critiquer. Les sciences inférieures peuvent accepter supérieures les critiques. Mais comme la sagesse n'a rien au-dessus d'elle, elle doit se critiquer. En comprenant les limites de la critique et ce qui ne peut pas être critiqué. Alors ça c'est un point de vue très intéressant et très curieux. Quel est l'alpha et l'oméga de la vie intellectuelle qui échappe à la critique? Ça on le verra progressivement. Il y a quelque chose qui échappe à la critique. Puisque la critique n'est pas première. Donc il faut bien dire qu'il y a quelque chose de premier dans la vie de l'intelligence qui échappe à la critique, qui est une opération naturelle de l'intelligence, qui ferait son chemin. Et puis il y a quelque chose d'ultime dans la vie d'intelligence qui n'est pas critiquable. La naïveté première de l'intelligence. Soyez simple comme des colombes et prudents comme des serpents. Il n'y a pas la naïveté de la colombe, il ne faut pas y avoir la prudence du serpent. La naïveté de la colombe, c'est ce jaillissement premier de la vie intellectuelle. Il faudra se demander où se trouve ce jaillissement premier et où se trouve l'ultime moment de la vie d'intelligence, au-delà de la critique. La critique, c'est donc cette réflexion philosophique, c'est à l'intérieur de la philosophie. Je recherche ce qu'il y a de fondamental. construction du théologien. Mais la critique ne peut pas critiquer la foi. Vous voyez, dans l'article de saint Thomas qu'on voyait tout à l'heure, saint Thomas fait aller la critique pour découvrir le bien universel. Et puis, il cite le psaume. Et quand il cite le psaume, c'est en dehors de la critique. Ma foi est incritiquable. est invité au congrès du futurible. La science, plutôt tout net, la science de tout, la science des communications. Est-ce que c'est théologique? Est-ce que c'est économique? Tout est dedans. Est-ce que quand vous faites la théologie des communications, vous faites une science, on ne ferait pas la théologie. Alors, je crois qu'il faut constater ça. Mais je vais aller très vite là-dessus, parce que ça, c'est chacun d'entre nous. Réflexion sur l'état actuel des connaissances humaines. ce qui aboutit à une théologie. Et la critique est après la théologie. Toute la philosophie peut être critiquée. Donc vous voyez, le premier problème, ça je crois que c'est quand même très important de saisir ça. Premier problème, critique de la connaissance philosophique. C'est-à-dire, pourquoi cette diversité? Je me pose la question, je ne résous pas tout de suite. Pourquoi cette diversité? Et comment expliquer l'unité? Est-ce que la multiplicité de la science, est-ce que les diverses parties de la philosophie sont-elles justifiables? Comment sont-elles justifiables? Et accepter cette diversité des parties de la philosophie, est-ce que ce n'est pas accepter une certaine anarchie? Ou est-ce qu'au contraire, accepter cette diversité, c'est maintenir un réalisme qui va jusqu'au bout? Mais les quelques questions critiques qu'il faut se poser, je ne les résous pas tout de suite, hein. Ça mettra du temps à les résoudre. C'est bien évident que ça met du temps à les résoudre. Parce qu'il faut toucher le fondement de ma pensée philosophique avant de résoudre ça. Et c'est en touchant ce fondement que je pourrai alors revenir à cette diversité et comprendre que cette diversité, elle est normale. Étant donné la manière dont je connais ce qui est. Diversité de la science provient-elle en premier lieu de l'objet ou de ma manière de connaître? Ou provient-elle des deux? Puisque je critique une pensée scientifique. Donc vous voyez bien ces problèmes qui se posent. Alors, entrant toujours plus à fond, je vois que le propre d'une philosophie réaliste, puisque c'est celle-là dont je pars, implique toujours comme point de départ l'expérience. Ce point de départ de la philosophie doit supprimer tous les a priori. Externe. Tout de suite, je vois la très grande diversité au point de vue expérience. sexe, qu'est-ce qui est premier? Parce que je m'aperçois tout de suite que dans l'expérience, il y a des connaissances sensibles, il y a l'imagination, il y a la mémoire, et puis il y a quand même l'intelligence qui émerge et qui est capable de dire ceci. Je constate, hein, je critique pas, je constate simplement pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a de premier dans ma connaissance. Puisque je m'aperçois de cette complexité. Je m'aperçois qu'il y a des degrés différents dans ma connaissance. La connaissance sensible, la connaissance imaginative, ma mémoire et ma connaissance intellectuelle. Qu'est-ce qui est le premier? Alors là, je peux tout de suite faire une petite distinction qui me semble nécessaire. Je critiquerai ensuite cette distinction puisque tout doit être critiqué. Je m'en sers tout de suite en me disant dans l'ordre général. La sensation apparaît première. Dans l'ordre génétique, dans l'ordre donc des apparitions des choses. L'expérience sensible apparaît première. Vous voyez, le gosse, quand il touche quelque chose, quand il voit, quand il entend. Un gosse qui crie parce qu'il a faim. Vous prenez une petite sonnette et vous agitez la sonnette. Dans un instant, il ne crie plus. Il y a un petit transfert. Il ne pense plus à son estomac. Il écoute. Il y a un petit transfert. C'est le premier. Mais au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que le son de la cloche ne le nourrit pas. Et ça revient plus fort. Il a été un peu... se va plus, on se met à chanter un instant, ça vaut, puis après ça vaut plus. Ça, c'est le transfert. C'est très très joli, ça. Ce qui est premier, on voit bien les sensations. Alors, est-ce que c'est les sensations internes? J'ai faim, ça se touche pas. J'ai faim. Et les sensations externes. S'il y a un transfert, ça prouve que les sensations externes ont quelque chose qui momentanément l'emporte. Qu'à cette impression, ce sentiment, j'ai faim. Le gosse d'abord regardait sa montre pour savoir quand il avait faim. Sur l'expérience très simple de la réalité. Qu'est-ce qui est ultime? Le regard. Et puis entre deux, puis les sens internes qui font appel à l'imagination, qui font appel à l'affectivité. C'est pour ça que c'est si tenace. L'appétit de se nourrir, c'est très tenace. Et c'est cet appétit intérieur qui va modifier cette expérience interne. J'ai faim. Cette expérience que vous faites quand vous dites j'ai faim. C'est pas votre intelligence qui est en train de jauger la profondeur de votre estomac, mais c'est parce que il y a une affectivité profonde en vous. Cet appétit de l'aliment qui est insatisfait et qui fait qu'à ce moment-là, il y a une connaissance nouvelle d'un sentiment intérieur d'insatisfaction. Donc connaissance affective. Les connaissances affectives font partie de ces connaissances. Puis alors, vous pouvez avoir des imaginations.
Sens. Et les
se séparer des sens, c'est-à-dire dès qu'elle atteint quelque chose comme universel, immédiatement, elle peut être critiquée parce qu'elle a une auto-lucidité. Donc elle a une autocritique. Elle peut réfléchir sur elle-même et se critiquer. C'est donc à partir d'une connaissance universelle que la critique commence, c'est curieux. L'universel, c'est l'objet propre de la logique. Dans une attitude critique, l'objet propre, dans une attitude de réflexion, je veux dire, l'objet propre de la logique, c'est l'universel. Et l'objet propre de la critique, ou plus exactement, la critique commence à exister en présence d'une connaissance universelle. Les deux attitudes réflexives, logiques et critiques, sont donc simultanées. Deux jumeaux, qui ne sont pas du tout des jumeaux semblables, sont des jumeaux dissemblables. Critique et logique naissent en même temps, puisque c'est à partir de la connaissance universelle que la logique peut naître et que la critique peut naître. C'est vraiment deux jumeaux, c'est très curieux ça. Il y aura donc toujours une petite rivalité, ça. Puisque là, je suis dans le domaine de la pure intelligence, sans que la charité intervienne. Alors il y aura toujours un peu une petite rivalité. J'ai laissé